Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau live Paris Central. On attend Nyx qui, pour le moment, rencontre quelques petits soucis techniques. Je suis donc pour le moment avec Recoba. Salut à toi, Recoba.
Salut, salut, j'étais pas en retard cette fois, quand même, faut le signaler.
je confirme, c'est bien vrai. Recoba n'était pas en retard. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. PSG Sociedad, c'est mercredi. On l'attendait depuis de longues semaines. Ça y est, la Ligue des Champions revient. Recoba, je vais te demander ton ressenti global. Comment tu le sens? Est-ce que tu le sens confiant, inquiet, entre les deux? Comment tu le sens?
Moi, je le sens plutôt bien. On va dire que rassuré sur certains points, forcément un petit peu inquiet aussi sur d'autres, mais je le sens plutôt bien. On va jouer en plus au Parc des Princes. Je sens l'équipe collectivement concernée, mentalement aussi. Il n'y a pas de gros blessés majeurs. En tout cas, bon, on va quand même attendre ce Lille PSG, mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de gros blessés. Donc, plutôt optimiste. Après, il y a toujours un match retour en plus si jamais tu te plantes. Donc, on n'est pas sur un match coup près. Mais je dirais que je le sens plutôt bien et que je suis plutôt optimiste. Après, forcément que tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose. Mais je trouve qu'il y a quand même de quoi être optimiste. Et toi, qu'est-ce que tu en penses?
Ça dépend de ce qu'on appelle optimiste. Optimiste, c'est quoi? C'est est-ce qu'il faut assurer quasiment une qualif des matchs aller, c'est-à-dire gagner par exemple 2-0,
Non, mais on va
ou être
dire faire
qualif
plutôt un bon match dans la performance.
faudrait quand même la victoire. Une petite victoire au
Faudrait
minimum.
que, ouais, quand
Parce que
même,
si tu te
surtout quand tu
retrouves
connais
avec.
nos difficultés à l'extérieur.
Ouais. Puis si t'es une bonne performance, mais que tu te retrouves avec un partout un peu moisi, tu vois, enfin, c'est toujours compliqué. Moi, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis ni inquiet ni serein. Je suis un peu entre les deux. On reviendra tout à l'heure sur le match de Brest notamment. Moi, ça m'a ni rassuré, ni autre chose, ni inquiété, puisqu'on a vu à peu près nos qualités habituelles en vue et on a vu nos défauts habituels. On sait à quoi s'attendre plus ou moins. Je pense qu'on ne va pas, améliorer nos défauts comme ça du jour au lendemain. On sait comment on joue, ce qui est déjà plutôt bien. Ce n'était pas toujours été le cas, notamment les autres années où on ne savait même pas comment on jouait. Bon, là, ce n'est pas parfait, mais on sait comment on joue. Et donc, on arrive quand même avec, on va dire, un minimum de certitude pour un adversaire du calibre de la Sociedad. C'est vrai que ça aurait été Munich ou City. Je pense que tu serais plus inquiet au vu de nos performances.
C'est ça, c'est aussi le fait que bon, l'adversaire soit que la Real Sociedad sans manquer de respect, forcément que tu es un petit peu plus optimiste. Après, c'est sûr que on parlait de qualif à l'aller, on va pas se mentir, on a eu des scénarios où au match aller on gagnait 3-4-0 et au final au retour on perd, sans parler de la remontada. Mais voilà, on est habitué avec le Paris Saint-Germain de pas forcément être rassuré, même en ayant une qualif qui normalement est acquise dès le match aller. Donc, bon, on verra. Mais en plus de ça, c'est vrai qu'on a du mal à trop se situer par rapport à la Sociedad parce qu'on a un adversaire quand même qui va pas très bien, qui dans le jeu n'a pas forcément montré de choses ultra rassurantes. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de lire ce match et ce qui pourrait se passer. On a une Sociedad solide qui prend pas beaucoup de buts et qui en marque pas beaucoup. Mais d'un autre côté, on a un Paris Saint-Germain qui peut prendre des buts contre n'importe quel adversaire et même en donner. Donc la Sociedad n'aura pas forcément besoin de faire beaucoup d'efforts pour en marquer un. Donc on se dirigerait vers un match qui pourrait être assez serré, mais d'un autre côté, on se dit que ça pourrait partir dans tous les sens aussi, parce que on peut se souvenir aussi de Newcastle qui a perdu quasiment tous ses matchs, alors que le seul match nul qu'ils avaient fait, c'était face au PSG dans la période où ils n'étaient pas bien. Donc c'est vrai que c'est difficile à lire. Et nous et eux, donc on ne sait pas trop sur quel pied danser sur ce match-là.
Ouais, ça on en reviendra. On peut faire la transition tout de suite avec ce sujet avant de parler du milieu titulaire face à la RAL, puisque tu as un peu abordé le sujet. C'était une équipe donc qui ne casse pas beaucoup de buts, à savoir la Sociedad, contre une équipe qui a besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, c'est-à-dire le PSG. Et donc, est-ce qu'on s'attend à un 0-0 ou pas? Toi, justement, c'est tu soit 0, le 0-0 est possible, mais en même temps, ça peut être un match où tu comprends pas et qui finit à 2-2, quoi, ou 3-1. Ou...
Ouais, la logique partirait sur un match quand même assez fermé, avec une Sociedad qui va maîtriser le jeu, je pense. Je pense que malgré que ce soit chez nous, ils auront la possession. Je pense qu'on aura aussi forcément des fulgurances et qu'en transition, on fera mal. Mais ça reste une équipe qui est solide et qui prend peu de buts. Nous, on a aussi des périodes où on a du mal à marquer. où on arrive à se créer des occasions, mais dans la finition, ça pêche un peu. Donc, sur la logique, tu te diriges vers un match assez fermé, avec quelques éclats par moment, mais où finalement, tu n'arrives pas forcément à mettre ce but, et où à tout moment, toi, tu peux prendre des buts, et où l'équipe adverse arrive quand même souvent à se créer des occasions face à nous, peu importe son niveau et son classement. Donc, c'est difficile à lire, mais au final, moi, je pense que la logique ne sera totalement pas respectée et je pense qu'on aura un match très ouvert, au contraire.
Je sens bien un but assez rapide dans le premier quart d'heure, ouais, et derrière, un match qui part un peu en vrille, on ne comprend pas pourquoi. Je le vois bien comme ça aussi.
Ouais, je vois le match retour plus serré. Ouais, on t'entend bien.
Ok. Oui, je voulais juste ajouter que j'espère que si on marque vite, comme vous l'avez dit juste avant, qu'on va pas gérer, parce que ça fait des années qu'on gère.
Pas gérer.
Et après, déjà, on sait pas gérer, donc le match il peut très mal se terminer. Et en plus, le match retour, faut y penser. On a des scénarios de fou malade à chaque fois au match retour. Vaut mieux se protéger au maximum, même si la dernière fois 4-0 c'était pas suffisant. Mais là, si tu peux leur mettre 7-0, je sais pas ce que tu peux. Mais en fait, quand tu as marqué ton premier but, là, il faut passer en mode rouleau compresseur Bayern. Je sais pas si vous pensez que ce PSG, il peut continuer à terminer l'adversaire jusqu'au coup de sifflet final.
Bah, quand tu as des profils quand même comme on a sur les ailes, Dembélé, Barcola, même si tu décides de un peu plus fermer la boutique, tu auras toujours des occasions en transition. Donc, il faut en profiter, il faut jouer là-dessus. C'est ta grande force. C'est ta grande force. Quand tu mènes, quand tu es mené, quoi qu'il arrive, c'est ta grande force. Donc, même si tu mènes 1-0, 2-0, tu sais que tu auras encore 2, 3, 4 occasions sur un déséquilibre d'un des deux. Donc oui, il faut en profiter.
On a le coach de la remontada. C'est bien vrai.
Mon souvenir. Et je suis content parce qu'on va voir, mon petit Zubimendi, Nix, que tu ne voulais pas au PSG, puisqu'a priori pour toi il ne gagnait pas de duel. On verra. Il n'a pas les meilleurs adversaires face à lui au niveau des duels.
Il gagne des duels contre Fabian Ruiz, ça ne veut pas dire grand chose. Ça ne veut rien dire. Mais écoutez. Je pense qu'on se dirige vers un match comme ça en espérant qu'on ait plus de réussite. Après, je ne sais pas si vous avez vu les derniers matchs, notamment la connexion Barcola et Mbappé, qui ferait que, entre guillemets, le danger sera équilibré sur les deux ailes, parce que notamment on voit contre Brest, malgré la présence d'Hakimi et Dembélé, le danger il vient quand même souvent du côté gauche. Donc est-ce que maintenant qu'il y a la connexion Barcola Mbappé plus la Hakimi et Dembélé, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut être plus réaliste devant le but, enfin même si c'est des joueurs qui ne le sont pas, hormis Mbappé, mais le fait d'en avoir 4 maintenant qu'ils s'entendent plutôt bien, est-ce que vous pensez qu'on va moins voir danger que dans les matchs de Ligue des Champions précédents?
Peut-être même 5, hein. Peut-être même 5 si jamais Asensio est aligné, mais en tout cas, c'est sûr qu'on a des couloirs aujourd'hui qui sont notre vraie force, surtout que depuis l'éclosion de Barcola, maintenant on a vraiment les deux côtés, même si ça penche souvent plus à droite avec le côté Hakimi Dembélé, et même Mbappé qui s'entend très bien avec Dembélé. Maintenant, il y a une vraie connexion aussi qui se passe avec Barcola. Et c'est clair que ces côtés-là sont vraiment notre force. Maintenant, oui, il y en a qui, comme Dembélé, qui, après, à mon avis, régleront jamais la mire. Hein, ça restera toujours un défaut. Mais Barcola, petit à petit, gagne en efficacité. On a Asensio aussi qui pourrait être titulaire dans ce milieu-là et qui a beaucoup, beaucoup d'efficacité. Et qui est très très fort dans les 25-30 derniers mètres adverses. Donc on a de vraies forces à ce niveau-là. Maintenant, en face, tu as une équipe qui défend bien, tu as une équipe qui prend très très peu de buts, donc ça ne va pas être évident, mais c'est sûr que le trio qu'on a pu voir face à Brest monte en puissance, et là-dessus, je pense que ça nous a vraiment rassurés. Et puis je dirais que même défensivement, c'est surtout le milieu en fait. Voilà, la clé sera le milieu, j'ai vu en commentaire. Enfin, je crois que Nix, tu ne peux pas les monter, c'est à moi de les monter.
Si, je peux.
Ok. Bah, la clé sera le milieu, je suis assez d'accord. Et on l'a vu face à Brest et globalement cette saison, tu as l'impression que Bobo l'avait dit dans le débrief et j'étais totalement d'accord avec lui. Tu as l'impression que le PSG, c'est une attaque et une défense. Soit on a une phase d'attaque, soit on a une phase de défense, mais tu as l'impression que le milieu, il n'existe pas. Tu as l'impression que soit tu vois nos défenseurs, soit nos attaquants et le milieu, il n'existe pas. Et à un moment donné, et surtout dans les grands matchs comme ça, il va falloir que ton milieu existe. Maintenant, malheureusement, c'est jamais le même milieu qui est aligné. Il y en a qui sont en méforme, d'autres qui pêchent sur certains aspects. Donc, Attends, mais je viens de faire ma barbe, les mecs. Vous êtes sérieux, là?
Moi, c'est volontaire. Je pars en vacances la semaine prochaine. J'attends le dernier jour avant le ski pour la raser.
Je pense qu'il s'adresse sur toi, Basto et moi, avec nos barbes. Ouais.
Surtout moi, parce que là, elle ressemble à rien.
Vas-y, continue.
Donc, c'est sûr qu'au milieu, on manque de certitude. Et face à une Sociedad qui, elle, en a, ça va pas être évident. Mais en tout cas, je pense que surtout sur le dernier match, on a pu voir que le secteur offensif était plutôt rassurant avec un Mbappé aussi retrouvé qui bouge beaucoup plus. Et c'est quand même mieux comme ça.
Après, c'est pas que le milieu. Enfin, le problème, c'est qu'on pointe le milieu. Mais tu vois quand même énormément de séquences où tu vois le milieu qui accompagne l'attaque pour presser, et au lieu d'avoir ta défense comme à City, tu vas voir qu'il va être proche aussi du milieu dans le moyen de terrain adverse. Nous, notre défense, notre ligne de défense, elle reste dans ses 20-30 mètres. Donc après, forcément, tu te fais transpercer en une passe quand tu perds le ballon parce que le milieu va presser, et tu as un no man's land qui fait que direct, les attaquants adverses se retrouvent face à nos défenseurs. Et donc, on se met à obligé de défendre en reculant. C'est pas que les milieux, même s'ils sont évidemment responsable, mais je trouve que notre bloc équipe dans le pressing, même si on récupère très vite le ballon, plus que les autres années, mais quand on n'arrive pas à le récupérer dans ces 3-4 secondes, on est en danger parce qu'on n'est pas très structuré non plus. Il y a trop d'espace entre nos lignes.
Mais je dirais qu'on n'a pas forcément la ligne défensive pour ça aussi. On a un Marquinhos qui, on l'a dit déjà sur le dernier match, et globalement est beaucoup sur le reculoir et paraît moins serein pour intervenir sur l'attaquant. On a un Danilo qui est titulaire, mais qui manque de vitesse, donc difficile pour lui de jouer haut. Beraldo qui est aligné à gauche, donc forcément, et puis lui aussi, il a un déficit de vitesse. Donc quand tu regardes les trois, bah, c'est compliqué. Je pense qu'il va falloir pour ça le retour de Nuno Mendes, avec une défense Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Marquinhos et Hakimi. Tu as quand même quatre défenseurs qui peuvent jouer haut, qui ont des qualités techniques et qui sont capables aussi de défendre haut et de revenir aussi quand ils sont pris dans le dos. Donc, je pense que quand on aura cette défense type-là, on pourra défendre un peu plus haut. Et même, ça nous aidera aussi à récupérer le ballon bien plus haut parce que forcément, des Nuno, des Hakimi, c'est beaucoup plus proche de l'ailier. Donc, pour récupérer haut, c'est un petit peu plus facile. Mais je pense que ouais, c'est la défense qu'on a actuellement qui fait qu'on ne peut pas jouer assez haut.
Mais je suis d'accord avec ce qu'il disait Derek Signeau. Il y a une volonté aussi de Luis Enrique de un peu délaisser l'axe. Quand il veut que son équipe soit complètement qu'elle prenne toute la largeur du terrain, bah forcément niveau densité au milieu de terrain, il n'y a pas grand chose, donc c'est une tranche de fromage fine qui a moindre perte de balle. Il y a de l'espace de fou entre deux milieux parce qu'ils essaient de prendre toute la largeur, donc tu passes entre les deux et ça y est, haute. Ouais, vas-y.
Ouais, bah c'est pour ça que le milieu qu'on va aligner Marc Redip va changer tout ou pas. Hein. Asensio, par exemple, s'il est titulaire, tu décides de rajouter une densité dans l'axe et d'avoir du jeu qui ne passe pas que sur les côtés. Alors que si tu mets ton Vitinha, Emery, etc., ton jeu, c'est que les 1 contre 1 sur les ailes, écarté, effectivement, on prendra des vagues. Donc ça va dépendre du choix de Enrique. Oui, c'est plus ou moins volontaire, je suis d'accord.
Ok, bah on va arriver au sujet dont on parle depuis tout à l'heure, même si on n'est pas rentré dans les détails. On va parler du milieu titulaire qu'on voudrait face à la Sociedad. Donc restez connectés, on vous donne notre milieu tout de suite, les gars. Et n'oubliez pas, c'était des jingles pour s'abonner. Donc abonnez-vous, likez et aidez-nous à faire développer la chaîne parce que c'est pas facile tous les jours de la faire monter. Donc mettez des likes, mettez des abonnements et puis en espérant que ça aille dans le sens positif. Bon, alors les gars, votre milieu de terrain face à la Sociedad, on a vu pas mal de choses. On a vu le retour de Ruiz. On a vu la possibilité d'Asensio au milieu de terrain. On est très loin du trio titulaire qu'on avait en début de saison, un petit peu avec Zahir Emery, Ugarte, Vitinha. Est-ce que pour ce match, vous repartez là-dessus ou vous prenez un des deux qui a réussi à se faire un peu sa place entre Ruiz et Asensio? Vas-y, Basto.
C'est compliqué. Déjà, je ne sais pas ce que mettra Enrique. Enrique, vous le voyez mettre quoi, vous? Avant de dire notre avis, Enrique, vous pensez qu'il va mettre quoi?
Ruiz, Vitinha et Emery, je pense.
Zahir Emery, moi aussi, je pense que c'est ce qu'il va faire.
Avec Ruiz, Vitinha, Emery, je pense aussi que c'est ce qu'il va faire. Ouais. Après, comme j'ai dit, ça dépend de comment tu abordes le match. Soit tu acceptes, tu connais le milieu de la société d'Admerino Zubimendi, et j'arrive jamais à prononcer son nom, là, leur numéro 9-10, là, Oyarzabal. Vous m'avez compris. Soit tu décides, tu sais que tu n'auras pas la maîtrise, tu seras dominé au milieu et tu l'acceptes. Donc dans ces cas-là, tu peux mettre Ugarte pour justement contrecarrer ça. Et si tu mets Ugarte, pour le coup, je mets un Asensio parce qu'il faut quand même, quitte à garder plus d'équilibre, avoir un peu de déséquilibre dans les 30 derniers mètres du moins. Donc un duo Ugarte Asensio avec Emery. S'il n'y a pas Ugarte et que tu veux quand même un minimum la maîtrise, donc ne pas la laisser totalement à la Sociedad, effectivement, il va mettre un milieu et il faut mettre un milieu à la place d'Ugarte. On a encore vu sa rentrée contre Brest, notamment son centre au 10e poteau à Ugarte. Donc si on veut un peu de maîtrise de balle, un milieu bas, Vitinha, qui la plupart du temps joue 6 maintenant, donc Vitinha, Emery, et effectivement, Lee ne jouera sûrement pas parce qu'il n'est pas dans le groupe ce soir, donc il n'aura pas de temps de jeu. Et Asensio, Vitinha, plus Emery, c'est peut-être déséquilibré. Donc ouais, moi, à l'arrivée, je crois que si on choisit d'avoir un peu de maîtrise, je fais comme Enrique le fera, selon vos dires, le Ruiz, Vitinha, Emery, mais c'est un peu par défaut, quoi. C'est vrai que je se retrouve avec Ruiz titulaire dans un 8e de Ligue des Champions avec tous tes milieux aptes. Ça pique un peu, mais bon, à ton choix.
Recoba.
Franchement, moi, je suis tiraillé. Je suis tiraillé parce que soit je pars du principe que il faudrait que tu alignes le milieu, entre guillemets, avec le plus de certitude et qui a le mieux marché, on va dire, en Ligue des Champions. C'est Ugarte, Zaïre Emery et Vitinha. Pour moi, c'est le trio type qui a fonctionné, qui donne la meilleure satisfaction, on va dire, au sens global du terme. Donc, tu pourrais partir avec ce milieu-là. Mais tu as une interrogation sur Ugarte. Ugarte, aujourd'hui, il est un petit peu à la cave. Il joue de temps en temps, mais il sort à la 50e. On ne sait pas trop si physiquement ça va ou pas. On ne sait pas quel est le problème vraiment. S'il n'y a pas de problème, pour moi, il doit être titulaire. Il est très important. On va en avoir besoin pour récupérer des ballons. Donc, tu vas en avoir besoin forcément. Maintenant, si tu peux jouer avec lui, je te mets Ugarte, je te mets Zaïre Emery forcément. Et ton milieu créateur entre Vitinha et Asensio, personnellement, je mettrais Asensio. D'ailleurs, apparemment, ce serait le milieu de terrain annoncé face à Lille. C'est le milieu de terrain que j'ai demandé. Alors franchement, j'aimerais beaucoup voir
le Parisien, ce soir. L'équipe n'annonce pas le même milieu. Mais
ah bon, on verra. Mais en tout cas, si on pouvait voir ce soir Ugarte avec Zaïre Emery et Asensio, franchement, ce serait très bien. Mais au final, tu vas jouer face à une équipe joueuse. Et du coup, tu peux te retrouver face à un milieu de terrain qui pourrait être utile avec Vitinha en 6. Parce que déjà, Fabien Ruiz, moi, je le mets sur le banc. Vitinha en 6 avec Zaïre Emery et Asensio. Je pense que ça pourrait être un milieu de terrain intéressant. Qui peut allier qualité avec ballon et aussi sans ballon, parce qu'Asensio, mine de rien, il a quand même un bon physique, il court beaucoup, il récupère des ballons aussi. Ça peut être intéressant, et même sur les phases de transition, hein, Asensio, ça peut te lancer sur orbite tes ailiers, ça peut venir aider aussi, ça peut frapper de loin. Donc, ouais, c'est un milieu que j'aime bien, et surtout que Vitinha en 6, au final, il a donné quelques bonnes satisfactions, je trouve, même si tout n'est pas parfait. Je pense que ça peut être intéressant, mais au final, c'est très, très difficile d'en choisir un.
Mais en fait, Rico, je suis tellement d'accord avec toi que j'ai le seum parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Dans le milieu à 3, pour moi, il y en a un qui est intouchable, c'est Zaïre Emery, parce qu'il va te ramener de la percussion. Et c'est le seul, entre guillemets, qui peut être vraiment dangereux offensivement et défensivement. C'est ceux qui cochent les deux cases. Ou garder défensivement, ça peut être bien. Offensivement, c'est zéro. Vitinha, il a des bonnes frappes de balle. Après, dans la récupération, il n'est pas exceptionnel. Donc, moi, pour avoir un équilibre, effectivement, je mettrais Zaïre Emery. Et côté offensif, pour avoir ce meneur de jeu qu'on veut depuis longtemps, c'est clair qu'il nous faudra un Asensio. Ça va être celui qui défend le moins des trois. Et je pense qu'effectivement, pour avoir ton équilibre, tu dois mettre soit un Vitinha, soit un Ugarte en 6. Après, il n'y a que Luis Enrique qui connaît la forme d'Ugarte. Mais c'est sûr que si on l'avait en 6 et qu'il est en pleine forme et qu'il récupère des ballons, je le préfère à Vitinha, parce que là ça va vraiment être le mec qui te ratisse tous tes ballons. Tu vas avoir Zaïre Emery qui va l'aider un petit peu dans ce rôle là et tu vas avoir Asensio qui va pouvoir faire la transition entre le milieu de terrain quand tu récupères le ballon et bien lancer les contre-attaques, notamment dans notre jeu de transition. Ça va être celui des trois, je pense, qui est plus à même à envoyer un bon ballon en profondeur qui va être précis.
Donc, et on parle de, parce que j'ai vu un commentaire passer et c'est vrai que c'est intéressant, le commentaire de Pauline, parce que, et je crois qu'il en a parlé aussi Serge au-dessus, mais on parle du coup d'un Vitinha en 6 avec Zaïre Emery et possiblement Asensio. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire l'inverse aussi, avoir Vitinha Asensio plus haut et avoir Zaïre Emery en 6. Si je ne me trompe pas, Zaïre Emery s'est formé 6 et ça peut jouer 6. Ça peut être un joueur qui défend bien, qui récupère des ballons, qui presse haut et qui sait aussi relancer. Donc, pourquoi pas.
Avec Hakimi Dembélé, le fait qu'ils soient entre les deux depuis le début de saison, il y a des automatismes qui sont faits là-dessus. Moi, je ne bouge pas Emery pour le moment. Après, à terme, pourquoi pas, mais là, je ne touche pas à ce côté droit.
Mais dans les commentaires, je vois bien qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont d'accord avec ce trio-là. C'est juste, en fait, qui va où. Mais il y a pas mal de gens qui veulent qu'Asensio soit ce 8-10, Zaïre Emery, et après Vitinha. Mais ou mettre Zaïre Emery, ou mettre Vitinha, là, c'est là où je vois qu'il y a un peu des doutes dans les commentaires, mais ce trio revient souvent.
Après, ce qui me gêne, c'est pour ça que je disais que si je mets Ugarte, je mets Asensio, et si je ne mets pas Ugarte, je ne mets pas Asensio. Pour moi, c'est... autant on a pu travailler un peu un système avec un 8-10 quand il y avait Lee, il y avait Vitinha, Emery, Lee. Donc certains automatismes, autant si tu fais un milieu Vitinha, on va y arriver, Vitinha, Asensio, Emery, même si tu l'as eu avec Lee, c'était un match contre Dortmund, on a vu que c'était pas encore top niveau automatisme le milieu, Lee défend quand même un peu plus, c'est quand même un peu plus, un profil un peu plus, comment dire, un peu moins offensif créatif quand même que Asensio, même s'il a une certaine qualité balle au pied. Mais j'ai du mal à trouver l'équilibre Vitinha, Asensio, Emery sans l'avoir testé avant. Je trouve que ce serait trop risqué. Alors que Ugarte, Asensio, Lutti, t'as plus de. Même s'ils n'ont jamais été mis ensemble non plus, t'as plus de facilité à avoir des repères avec un milieu comme ça.
Donc tu retires Zaïre Emery de ce milieu à 3?
Non, c'est soit je mets Ugarte, comme j'ai dit, soit je mets Ugarte, Asensio, Emery, soit je mets. Vitinha, Emery, Ruiz.
Oui.
En fait, pour moi, il est lié avec Asensio. Pour moi, Ugarte est lié. Si un des deux joue pas, les deux jouent pas. Bah Ruiz, oui, parce qu'à l'arrivée, c'est ce que met Enrique depuis 3-4 mois. Donc, si on veut un minimum d'automatisme, ce sera ça. Et il a l'air de se contenter de Ruiz en 6.
Ouais, c'est Marcrat avec Asensio aussi.
Face à Dortmund, on a eu Vitinha 6, Zaïre Emery et Kangin Lee.
Ouais. Et ça n'a pas été top.
Ouais. C'est vrai que ça n'a pas été top. Après, moi, je trouve qu'Asensio, lui, il peut tenir 90 minutes. Kangin Lee, au bout de 40, il est cuit. Au bout de 40, déjà, il est déjà tout rouge, il est déjà prêt à rentrer au vestiaire.
On remarque dans nos propos, et même quand on regarde le chat, le nombre de milieux différents qui sont proposés, tu m'étonnes qu'Enrique il soit perdu. À part Emery, à chaque fois, c'est qu'est-ce que je mets.
Mais complètement.
C'est compliqué. C'est compliqué, surtout que... En fait, la certitude, c'est, on va dire, allez, Fabian Ruiz sur le banc. Mais comme on ne sait pas trop pour regarder, bah c'est difficile. Du coup, il y a Vitinha qui peut jouer 6 et il y a Asensio que tu as envie de voir aussi dans ce milieu parce que très très bon créateur et à ce poste-là. Donc, c'est pas évident. Alors que c'est le secteur le plus important.
Ouais, mais Fabian Ruiz, juste avant le live, je regardais le replay du match de Brest. Mais en fait, ce mec-là, si tu le mets pas sur son pied gauche, t'es mort. Genre, j'ai vu à un moment, il pouvait faire une passe en profondeur et il était sur son pied droit. Le temps qu'il se retourne et tout, l'angle il était fermé. C'est vraiment, moi j'ai vraiment du mal à comprendre des joueurs professionnels qui n'ont pas un minimum, genre ils peuvent pas faire une passe avec leur pied faible. Une passe, genre t'as pas dit de mettre des frappes en lucarne. Une passe à 10 mètres.
Il est gaucher, c'est compliqué.
Il est gaucher, Asensio il est gaucher, mais vas-y, pied droit ça va, tu vois.
Ouais, non, mais c'est vrai. Mais il y en a, ils n'ont vraiment pas de pied droit. Mais moi, surtout avec Ruiz, ce que je trouve contre-productif, c'est quand il est associé avec Vitinha. Je trouve que Vitinha et Ruiz ensemble, c'est totalement contre-productif. Ça joue trop lent, ça ne prend pas assez de risques. Du coup, les deux, ils sont là vraiment dans un rythme. Les deux, en fait, ne cèdent vraiment pas.
J'ai un autre argument pour ne pas mettre Asensio. Asensio en sortie de banc à la place d'un Barcola qui aura beaucoup donné. Par exemple, quand on connaît comment Asensio est clinique face au but, le sang-froid qu'il a quand il se retrouve dans la surface de réparation, si tu es dans un match un peu serré où Barcola et Dembélé ont fatigué les défenses et tu décides de faire entrer Asensio dans les 30 derniers mètres, donc en position d'attaquant, et que là, avec sa lucidité, il arrive à te mettre le but, ça peut être un argument, tu vois, vu que tu n'as pas grand monde de satisfaisants sur le banc en attaque, vu les performances de Ramos et Kolo Muani. Autant avoir un joueur sûr sur le banc qui s'appelle Asensio en cas de blessure ou d'expérience d'un des attaquants.
Du coup, tu sortirais Dembélé à la 70e, quelque chose comme ça.
Ou Barcola, plus Dembélé, il a peut-être dans.
Mais Asensio, tu fais jouer à gauche alors.
Non, bah Asensio, s'il rentre, tu le fais jouer, il peut jouer à gauche, à droite, faux neuf, deux attaquants, on s'en fout, tu vois, c'est l'animation à la fin. Mais après, tu peux aussi. Dembélé, ça se trouve, il n'aura pas 90 minutes dans les jambes avec le fait qu'il a été reposé aussi dernièrement. C'est juste avoir une solution. Même imaginons Mbappé se pète en cours de match, on l'espère pas, mais au moins tu as Asensio qui peut rentrer dans l'axe et tu sais que tu as un joueur qui peut apporter des différences sur 30-40 minutes devant, ce qui n'est pas le cas de Colo et Ramos, on a beaucoup plus de doutes.
Ok. Bon, on va passer à la suite. On a fait déjà 25 minutes sur PSG Real Sociedad. À part si vous avez des questions, les gars, sur le match, dans les commentaires. Oui, ils ont 6. Cela dépend du résultat. Si tu mènes, tu fais rentrer Colo à gauche. Si jamais Mbappé il se pète sur un match, moi, j'ai pas de problème à faire rentrer Ramos. Hein. Tu le mets numéro 9 avec Dembélé et Barcola sur les côtés. On pourra avoir une surprise.
Ce soir, si Mbappé est reposé, je veux bien. Le Parisien annonce Ramos, mais l'équipe annonce Colo en pointe. On verra. Moi, je sens qu'il va mettre Colo. Hein, donc, je ne crois pas. Je crois plus en Ramos.
Je pense pas.
Pour moi, ce soir, c'est le moment de donner du temps de jeu à Ramos. T'as un Mbappé qui est là, qui, bon, même si ça va mieux, prends pas de risque, laisse-le se reposer. La saison va être longue, tu vas en avoir besoin à 100%. T'as deux ailiers virevoltants qui donnent des caviars, mais un Gonçalo Ramos en pointe, il est rentré, il a marqué. Oui, tu peux faire jouer Colo, mais c'est bon, faire rentrer Colo à la place de Barcola à la 60e ou 65e ou à la place de Dembélé, ce sera très bien. Il aura une demi-heure dans les jambes, il s'entend bien avec Ramos, mais à un moment donné, fais confiance en neuf à Ramos sur un match où Mbappé doit être préservé.
J'espère, mais bon, Enrique,
c'est vrai que je vous embrouille, mais on est d'accord là-dessus.
C'est une parfaite passe décisive pour le prochain sujet. On arrive tout de suite. Il y a-t-il un adulte au Paris Saint-Germain? Une personne qui peut dire à Kylian, non Kylian, repose-toi. Tu ne peux pas jouer tous les matchs. Tu n'es pas fait de fer, tu n'es pas fait de ciment. Tôt ou tard, ça pète. L'année dernière, tu as forcé pour les matchs de Coupe de France. Au final, on est arrivé au Bayern, tu étais blessé. Donc, tu vois que ça arrive. Face à Manchester City, il y a quelques années, tu étais blessé. Tu n'es pas invincible. Est-ce qu'il y a un adulte, il y a un directeur sportif, il y a un coach, il y a un président, il y a d'autres personnes qui sont autour du club qu'on ne connaît pas, il y a limite son père, il y a quelqu'un qui peut dire, un adulte, qui peut dire au jeune Kylian Mbappé, non, Réco.
Oui, mais bien sûr que oui, mais c'est juste que là, on va rentrer dans une phase différente. Kylian Mbappé, sur la première partie de saison, c'est ça depuis des années, depuis qu'il joue la Coupe du Monde, on va dire, en 2018, et que du coup, tous les étés, il a des grandes échéances. La première partie de saison, il est en gestion. On l'a encore vu, cette première partie de saison. Il court très peu, il peut jouer tous les matchs parce qu'il court peu, il fait moins de courses qu'à l'accoutumée. Là, il est rentré dans la deuxième phase de sa saison, dans le Money Time, où les matchs vont être très importants. Il va y avoir les matchs aussi cet été à l'Euro, peut-être les JO. Donc là, il est rentré, on va dire, dans la deuxième phase de conquérant, là où il va faire beaucoup plus d'efforts. Et donc, je pense que s'il y a besoin qu'il soit préservé, et en plus de ça, ce week-end où il y a eu cette demi-blessure, entre guillemets, mais où on pense que ce serait mieux quand même qu'il soit reposé, je pense que oui, Luis Enrique peut dire, tu vas t'asseoir sur le banc et tu as besoin pour le reste de la saison pour être optimal, avoir tes forces optimales pour la Ligue des Champions et pour continuer à être performant dans la saison, de t'asseoir sur le banc. Et je pense que lui-même le sait et s'assiera sur le banc.
Après, les gars, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le mettre sur le banc parce qu'il est nul. Je vous dis justement, le mettre sur le banc pour l'avoir frais pour les matchs de Ligue des Champions, notamment les matchs qui arrivent mercredi. Basto, t'en penses quoi, toi?
Bah, ce qui est assez fou quand même, c'est que depuis son vrai faux départ cet été, c'est-à-dire qu'il est rentré en cours de jeu contre Toulouse, donc depuis la troisième journée, il a joué tous les matchs en tant que titulaire, toutes les compétitions confondues. Je crois qu'il rate, il sort 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, il rate que 200 minutes depuis la troisième journée de Ligue 1. Donc,
oui,
il joue,
mais aussi parce que c'est lui qui court le moins.
Peut-être, mais il se blesse contre Brest, tu le laisses, tu prends le risque, tu vois, pendant 20-25 minutes. Est-ce que tu avais à le prendre? Je ne sais pas. Maintenant, pour moi, Enrique est assez faible avec Mbappé depuis le début. Je le pense depuis qu'il nous avait sorti, qu'il n'était pas content du match d'Mbappé contre Reims. Et c'était le moment le plus facile. C'est-à-dire, il vient de mettre un triplé, tu avais trêve internationale derrière. Donc, c'est le truc qui ne va pas faire la une des journaux. Tu vois, c'est, tu dis ça, c'est facile de le faire. Si tu avais vraiment des couilles ou si tu voulais vraiment mettre Mbappé, tu le disais après un match où il n'avait pas marqué ou je ne sais quoi. Et le match d'après où Mbappé ne marque pas, il n'est pas bon. Là, Enrique dit « Je suis très satisfait de lui ». Donc là, quand il a dit ça, quand j'ai vu qu'il a tensé Mbappé après un triplé, je me suis fait « Ok ». Donc Mbappé, Enrique, il n'aura aucune décision sur lui, c'est fini. Mbappé est devant Enrique et c'est Enrique qui l'a amené en partie. Maintenant, où je suis d'accord avec Recoba, c'est que la fin de saison va arriver, il va y avoir des matchs de plus en plus importants. Si Mbappé veut doubler Euro et JO, il va bien falloir aussi à un moment que lui-même souffle s'il veut pouvoir enchaîner tout ça. Et donc, quand le championnat sera plié, voir Mbappé sur le banc, je pense qu'il l'acceptera. Je pense même qu'il sera parfois demandeur, même si ça ne le fera pas plaisir, mais juste parce qu'il y a des compétitions derrière qui arrivent. Et pour le club, ce serait intelligent de le faire pour essayer de préparer la saison prochaine sans Mbappé, si Mbappé part, comme a priori c'est la tendance. Donc, tester, par exemple, est-ce qu'on veut vraiment de Ramos ou pas ? Donc, le mettre 2-3 matchs en fin de saison quand le championnat est fait, pour te faire une idée définitive si t'en veux ou si t'en veux pas et ou si tu dois recruter un neuf, etc., etc. Donc, je pense qu'en fin de saison, si le championnat est plié, il faudra le faire, et pour le joueur et pour l'équipe. J'espère que ce sera le cas, parce que sinon, c'est inquiétant.
Mais si on parle des objectifs de Kylian Mbappé, là, on est en mois de février, il reste quand même pas mal de compétitions, mais il n'y a pas un joueur qui se dégage vraiment pour avoir le ballon d'or. Donc, en soi, lui, cette année, je pense qu'il a de la marge parce qu'il est débarrassé de tous les injustes là, qui récupèrent des ballons d'or cadeaux. Donc là, normalement, cette année, s'il fait une bonne LDC et en bon euro, il y a moyen qu'il puisse le prendre. Donc dans sa gestion à lui, pourquoi lui ne se dit pas aussi « Moi, j'ai des trophées à gagner, faut que je me ménage ». Ce n'est pas que le club, c'est que de lui-même, il devrait se le dire. Comme tu as dit, il y a l'euro, il y a les JO. S'il arrive à ne serait-ce qu'en remporter son championnat plus l'euro, déjà ça le positionne très bien pour le Ballon d'Or.
Je pense qu'il a voulu enchaîner parce qu'il a eu une prépa un peu tronquée en début de saison et parce que pour le moment il n'y avait pas besoin. Mais comme l'a dit Reco, je pense que Reco le pense aussi, c'est que Mbappé va s'auto-ménager lui-même en fait d'ici la fin de saison à l'approche de l'euro et des JO, ça me paraît sûr.
Donc, ouais, comment ?
Vas-y, vas-y.
Non, mais pour moi, ouais, il y a eu cette première partie de saison où il était dans la gestion. Il fait beaucoup moins de courses qu'en deuxième partie de saison. C'est le joueur qui court le moins. Donc, quand tu cours 5-6 km par match et que tu fais moins de courses que d'habitude, tu peux te permettre de jouer tous les matchs. Maintenant, on va rentrer dans le money time, dans le moment de la saison qui est très important, où justement le ballon d'or va se jouer. Et les statistiques, c'est bien beau. Mais à un moment donné, si tu veux faire des statistiques et remporter des trophées, tu dois être à 100%. Et si tu veux être à 100% et être présent dans les grands moments, bah, tu dois forcément te ménager sur certains matchs. Et tous les candidats au Ballon d'Or, ils sortent. Hein. Haaland, déjà, il a été blessé, mais il tourne avec Alvarez. Bellingham, il ne va pas jouer tous les matchs, que ce soit avec sa sélection ou avec le Real Madrid. Vinicius, c'est la même chose. Donc avec Mbappé, ça va être la même chose. Donc, peut-être que ce soir, soit on le verra sur le banc, soit on le verra sortir à la 60e ou 70e. Mais je pense que lui-même sait très bien que là, il rentre dans une partie de saison qui va être très importante. Il va y avoir la Ligue des Champions, le championnat, l'Euro. Et que pour son bien physique et pour ses performances, surtout s'il veut aller chercher un ballon d'or et des trophées, ben il va devoir s'auto-ménager aussi. Et je pense que le club le sait très bien, Luis Enrique le sait très bien, et qu'après, ce sera d'un commun accord sur quel match il sort, quel match il ne joue pas, etc.
Ok, bah, c'était plus dans l'optique que je pense que franchement, cette année, le championnat il est plus ou moins plié. Je vois pas d'autres équipes qui peuvent nous menacer sur la fin de saison. Donc,
non, mais attention, par contre. Attention, parce que là, ce mois de février, je ne sais pas si vous avez vu le calendrier, mais ce mois de février-mars, on va avoir un calendrier, on va affronter des Rennes, des Lille, des Monaco, des Nice, deux fois la Sociedad. Donc attention, on pense le championnat plié, mais si tu commences à faire 2-3 mauvais matchs et que tu perds contre un adversaire direct en championnat,
attention. Ça peut aller vite, mais bon, il faudrait que derrière ça suive, que ça enchaîne.
C'est ça, parce que même si, vas-y, après ce mois de février-mars, on repasse à égalité avec, avec un de nos adversaires. Cet adversaire-là ne va jamais tenir jusqu'à fin mai sans faire de faux pas. Ça, on le sait très bien. C'est ça le problème de la Ligue 1. C'est que là, j'ai vu aucune équipe qui est solide, comme par exemple l'année où Monaco était solide et ils nous ont pris le titre, ou l'année où Lille nous a pris le titre. Là, il n'y a personne qui est solide. Des fois, il y a même des week-ends où on a gagné, Nice et Monaco, les deux, ils ont perdu. Donc au final, pour moi, il n'y a personne.
Non, mais bien sûr, ça manque de locomotives qui font une vraie saison, comme Lens, on a pu avoir l'année dernière. Donc dans tous les cas, ils ne reviendront pas, on a trop de points d'avance. Mais attention quand même à ne pas penser que ce n'est pas joué d'avance, c'est jamais joué. Dans le foot, il y a toujours des surprises, donc il faut quand même faire attention, surtout qu'on va avoir un calendrier très compliqué. Mais dans tous les cas, oui, évidemment, on est très bien, surtout le fait qu'on n'ait pas de locomotives derrière qui poussent, quoi.
Ok. Il y a Soura qui voulait parler de Donnarumma, mais Soura n'est pas là. Donc, on va aborder le sujet quand même. Mais restez avec nous pour le sujet Donnarumma. Soura nous a posé une question. Il nous a dit, est-ce que Donnarumma doit être installé définitivement pour les années à venir, malgré le fait qu'il fasse une bonne saison? Est-ce qu'il ne faudrait pas sauter sur les opportunités qui se dégagent sur cet été? Notamment, il a voulu parler de Maignan et de Diogo Costa. En sachant que si tu veux garder Luis Enrique, est-ce qu'au final, on a l'impression que la connexion entre les deux, le fait que Luis Enrique veut jouer possession et que ce n'est pas le fort de Donnarumma, est-ce qu'on commence à moins voir ce problème? Ou est-ce qu'il faut penser à changer, les gars? Est-ce qu'il faut penser à prendre Maignan, Diogo Costa ou autre solution? Vas-y, Basto.
Non, je ne pense pas. Encore une fois, c'est un marché qui est fermé, le marché des gardiens. Alors, certes, il y a Maignan, qui fait une moins bonne saison, d'ailleurs, hein, qui a fait quelques erreurs dernièrement. C'est vrai qu'on met souvent en avant quand Donna en fait. Donc, il en a fait 2-3 matchs de suite cette saison à un moment. Sinon, avant, il a été impeccable et après, il a été impeccable. Maignan en a fait sur plusieurs matchs, Ederson en a fait, Alisson en fait, tous les gardiens en font, sauf que quand c'est Donnarumma, t'as l'impression que les supporters qui ne regardent pas les autres matchs, il n'y a que lui qui en fait, les autres n'en font jamais. Donc déjà ça c'est faux, Donnarumma fait une grosse année, donc il a son âge, il n'a que 24 ans, va chercher sur le marché quelqu'un pour les prochaines années, sachant qu'on a quand même tous les autres postes à régler. C'est vraiment le dernier poste sur lequel il faut pour moi mettre de l'argent cet été. Maignan, ça va coûter cher. Il va falloir pouvoir vendre Donnarumma aussi, vu son salaire, c'est pas donné. Enfin, tu tires une balle dans le pied pour rien, pour moi. Sachant qu'en plus, Donnarumma s'est amélioré au pied ces derniers temps. On voit rarement maintenant mettre des passes directement à l'adversaire ou même directement en touche. Alors, il a épuré son jeu, il joue plus simple. Certes, c'est pas Ederson, c'est pas un quarterback, c'est pas Onana, c'est pas Maignan, il va pas te faire des passes décisives sur 80 mètres. Mais tu peux te mettre avec Donnarumma sur des premières relances, jeu court, et on le voit souvent. Il y a eu 4-5 buts qui partent d'un jeu court de Donnarumma sur les 2-3 derniers mois. Donc, oui, ce n'est pas le jeu au pied idéal que voudrait un Enrique, mais ce n'est pas non plus un estrophié qui n'aurait pas de jeu au pied du tout. Il a une qualité technique minimale, enfin correcte, même moyenne plus. Et donc, pour moi, même si on aimerait tous qu'il ait un jeu au pied, bah, s'il l'avait, ce serait le meilleur gardien du monde. Donc, non, Donnarumma, on va pas, ça ne sert à rien de se créer un autre dossier alors qu'on en a déjà tellement à régler.
Mais ce que t'as dit, c'est exactement ce que je pense. Et j'ai encore vu le week-end dernier Arsenal-Liverpool.
Ben oui.
T'as Alisson qui fait une de ses boulettes, mais en plus, il est coutumier du fait. Et pourtant, depuis tout à l'heure, dans les commentaires, je vois grave, ouais, aller prendre Alisson, un truc comme ça. Alors que, à mon avis, si on compte, il y a même l'année d'avant, il y a un Real-Liverpool où Courtois plus Alisson, ils font chacun une dinguerie. Alisson, ouais, il fait v'là les dingueries. Et je vois que en fait, tout le monde est là. Alisson, prenez Alisson à la place de Donnarumma. Mais les gars, c'est vraiment, comme il a dit Basto, je pense que vu qu'on regarde le PSG, on est grave fixé sur les boulettes de Donnarumma parce que c'est notre club. Mais tous les gardiens font des boulettes. Il y en a plein. Vas-y, Rico.
Non, mais je suis complètement d'accord. Premièrement, oui, le marché est fermé, c'est très compliqué d'aller chercher un gardien. Deuxièmement, mais si vous saviez le nombre de boulettes que font les gardiens de but, on en a parlé des matchs pour Courtois, pour Alisson, mais c'est pareil pour d'autres. Alors après, des gardiens très bons au pied, il y en a peu aussi. Et ils ne sont pas aussi forts sur leur ligne que Thibaut Courtois, et à un moment, que Thibaut Courtois ou Ter Stegen, etc. Ter Stegen aussi qui fait des boulettes. Donc il y en a énormément qui font des boulettes. Mais ça, c'est aussi par le fait qu'on devient dans un football qui évolue, etc., où on demande justement aux gardiens de prendre des risques au pied, de relancer au pied, alors qu'avant, ils ne se faisaient pas chier, ils dégageaient en touche. Donc forcément, ça fait qu'ils font aussi plus de bourdes. Les ballons aussi, plus difficiles à négocier. Mais ils font tous des boulettes. Et à un moment donné, Donnarumma, ce qu'on demande quand même à un gardien de base, c'est de faire des arrêts décisifs, c'est de faire des arrêts. Au-delà de savoir jouer au pied, ça, c'est un plus. Mais c'est de faire des arrêts et être décisif. Et cette saison, Donnarumma, il est décisif. Il a eu une période de 2-3 matchs où c'était un petit peu plus délicat, mais comme l'a dit Basto, avant et après, et du coup en ce moment, il est très bon. Et Donnarumma, moi, mon avis, il a jamais changé. Ça a été cette saison, on verra ce qu'il va donner. S'il est bon, s'il est rassurant, s'il est en progrès, il n'y a pas besoin de s'en séparer. Surtout qu'il y a d'autres endroits où tu dois vraiment te renforcer. À partir du moment où il n'est pas bon, où il n'est pas rassurant, et que dans les gros matchs, il n'est pas important, dans ce cas, ok, il est jeune, il a une valeur marchande, pourquoi pas s'en séparer ? Mais aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi tu voudrais te séparer de Donnarumma, surtout qu'il est en progrès, il fait moins de boulettes au pied, dans les airs, il a progressé, et il te fait énormément d'arrêts sur sa ligne, il te sauve beaucoup de points. Donc à un moment donné, pour moi, les 2-3 boulettes qu'il fait dans une saison, je les échange sans problème face au niveau qu'il t'affiche globalement sur une saison pour le moment en tout cas.
Ouais, les gens, ils restent focus sur les boulettes, ils ne regardent pas le nombre de points qu'il nous a ramenés depuis qu'on est catastrophique.
Surtout que ces erreurs à part celle contre Newcastle, mais qui n'est pas la plus grosse, ces erreurs, c'est contre Monaco et contre Le Havre, et ça n'amène pas à préjudice puisqu'on gagne les deux matchs. Après, c'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'il le fasse en quart de finale comme il a pu faire contre le Real Madrid, voilà, ou contre Munich l'année dernière.
Et encore, il y avait faute. Hein.
Et encore, oui. Mais bon.
Il y a faute. Ok. Mais
c'est ça qui est fou. Hein. La vérité, ouais. Si Mbappé il fait cette faute sur Thibaut Courtois, il y a faute. Tu vois. Donc, bon.
Ouais. C'est l'arbitrage Real. On connaît, on a l'habitude. On va parler du dossier de l'élu. Le mystérieux, l'élu qu'on attend depuis des années. Vous ne savez pas de qui je parle, mais vous allez bientôt le savoir. Restez là. L'élu après Luis Enrique. Rassurez-vous, on n'est pas à dire Luis Enrique doit partir, etc. etc. Ça fait même pas un an qu'il est là. On va le laisser travailler, bien évidemment. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que il y a quelqu'un qui est considéré comme l'élu, entre guillemets, qui a dit des choses qui sont sorties cette semaine dans la presse. Et on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà programmer, forcer à faire en sorte qu'après Luis Enrique, ce sera lui qui prenne les rênes. Parce qu'on ne va pas se mentir, je ne pense pas que Luis Enrique sera là pour 5 ans. Mais il y en a un qui veut vraiment entraîner ce club, qui rêve de l'entraîner depuis un bon moment. On a une déclat de Aurelio De Laurentiis, qui nous dit « J'ai eu une conversation avec Thiago Motta l'année dernière à Rome. Elle a duré 6 heures. Il m'a dit qu'il aspirait à entraîner certains clubs hors de l'Italie. » Le journaliste répond « Le PSG. » Et De Laurentiis, il dit « Voilà, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. » Donc, les gars, je sais que Tonton, il était très fan de ce projet de reconstruire avec Luis Enrique et ensuite passer l'équipe à un Motta qui aura pris plus d'expérience. On sait que c'est un joueur qui a marqué l'RQSI par sa mentalité, par son professionnalisme. Est-ce que pour vous, c'est l'élu qui doit prendre les rênes après Luis Enrique ? On t'écoute, Basto.
On a toujours un problème de timing dans ce club, malheureusement, sur les coachs ou sur certaines arrivées de joueurs. C'est jamais fait dans le bon moment. C'est dommage. Parce qu'en soi, Motta, évidemment, moi, évidemment, je le prends. Maintenant, tu ne vas pas virer Enrique après un projet où tu as décidé qu'il fallait laisser un peu de temps, qu'il fallait laisser du moyen terme, même si perso, je ne crois pas au moyen terme avec Enrique. Mais bon, du moment que tu es parti dans cette idée de la part du club, tu vas jusqu'au bout. Et Motta, il ne va pas attendre. Il ne va pas attendre s'il y a une offre, je ne sais pas, de la Roma qui va être rachetée par les Saoudiens, s'il y a eu une proposition d'un gros club italien, voire du Barça, qui va chercher un coach. Il n'attendra pas, il partira. Et donc, nous, ça se trouve, l'année prochaine, on ne sera pas bon. Enrique sera viré, mais Mota ne sera plus sur le marché. Mota, il aurait fallu le tenter soit cet été. On sait que Nasser voulait Mota, notamment cet été, et ça aurait pu le faire. Hein, dans cette idée de reconstruction, tu prenais Mota plutôt qu'Enrique. Tu aurais pu le prendre à la place de Galtier. Je pense que tu ne prenais pas Driss non plus, mais bon, il venait. Il y avait moins. On va dire que Mota n'avait pas encore. Son expérience, il sortait d'une mauvaise expérience au Genoa où ça s'était plus ou moins bien placé. Après, Sassuolo, ça avait été mieux. Quelle équipe il avait ?
Bologne.
Non, avant Bologne, là où il les maintient.
Le Genoa.
Ah, la Spezia.
La Spezia. Le passé, mais c'était pas non plus. Voilà, c'était une équipe qu'il a maintenue avec plutôt brio parce qu'il n'avait pas recruté. Donc, c'était une équipe au niveau D2 qu'il a réussi à maintenir. Mais ce n'était pas non plus ce qu'on voit, ce qu'il fait à Bologne, qu'il arrive à mettre dans le top 5, 6, 7 depuis qu'il est là. Donc voilà, Mota l'année dernière, Mota il y a 2 ans, ça aurait pu se tenter. Malheureusement, cet été, le timing ne sera pas bon. Donc, rendez-vous manqué pour le moment, mais peut-être dans 4, 5, 6 ans. On ne sait pas si le timing le permet.
Bah, je vois qu'il y a pas mal d'entre vous qui ne sont pas d'accord avec moi et qui disent que Luis Enrique va rester 5 ans. Moi, là où je vous dis qu'il y aura une limite avec Luis Enrique, c'est que le football qu'il essaie de pratiquer ne marche plus, pour moi, dans le football moderne. Et si tu avais encore un coach qui sait s'adapter et qui sait faire autre chose que ça, je t'aurais dit oui. Mais pour moi, ce que Luis Enrique essaie de faire, ça ne marchera pas parce que ça ne marche plus pour le Barça, ça ne marche plus pour toutes les équipes qui jouaient comme ça. Et il n'a pas l'air de pouvoir s'adapter. Il a l'impression qu'il veut forcer les joueurs à jouer comme il a envie de jouer, comme si, entre guillemets, le football il s'est arrêté quand Luis Enrique a décidé de jouer comme ça et qu'il va poser son style aux adversaires. Non, on est dans un football où tous les coachs s'adaptent. Vous avez vu même Guardiola s'adapter au football moderne. Vous n'allez pas me dire que Luis Enrique, pendant les 5 prochaines années, va continuer à proposer le football qu'il propose maintenant. Ça ne marche déjà pas maintenant parce qu'il te parle de maîtrise. On n'a pas de maîtrise contre aucune équipe. Il n'y a aucune équipe qui est venue jouer contre nous ces derniers temps. On a eu ne serait-ce qu'un peu de maîtrise. C'était des équipes, même les derniers de Ligue 1, on n'en a pas.
Tu vois ce que dit Eric Roy à la fin du match. Ils sont plus dangereux quand nous, on a le ballon que quand eux, ils l'ont. Tu comprends que ça ne marche pas. Ouais.
Mais clairement, moi, j'ai l'impression que c'est une illusion. Après, moi, je ne vous dis pas qu'il doit sauter. Moi, je suis avec lui parce que c'est le coach, même si on n'était pas pour, c'est le coach qui a été choisi pour le projet du Paris Saint-Germain. Donc, on reste avec lui, on le soutient. Mais moi, personnellement, de ma vision sur le long terme, je pense qu'à un moment, le Qatar va se lasser parce que je ne suis pas sûr que les résultats vont venir avec un jeu aussi dépassé. Et moi, je ne le vois pas sur 5 ans. Mais vas-y, Rekoba, je te laisse rebondir sur Mota.
Bah, je pense que Luis Enrique sera là quand même pour plusieurs années, au moins 3 ans. Je crois que de toute façon, ces cycles, c'est ça globalement. Barça-Espagne, c'est 3 ans, je crois. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va faire 5, 6, 7 ans. Et je ne le vois pas par rapport aussi à son caractère, par rapport au fait qu'il puisse aussi échouer. Je ne le vois pas faire autant d'années, mais je le vois au moins faire, on va dire, 3 ans en moyenne, je dirais, allez, 3 ans. Maintenant, est-ce qu'il va réussir ou pas ? On verra. Dans tous les cas, est-ce qu'il va s'adapter ou pas ? On verra. On le saura que dans l'avenir. Donc, pour l'instant, on va lui faire confiance. On est derrière lui et on verra bien ce qui va se passer avec ses recrues, avec son projet vraiment, ses joueurs, le dénouement aussi du dossier Mbappé. On verra comment ça va se passer. Moi, je ne veux pas l'enterrer, même si je suis assez d'accord avec toi. Mais pour Thiago Motta, pour moi, on n'a pas forcément eu de mauvais timing. Moi, je n'en voulais pas cet été parce que pour moi, il est encore jeune. Il a encore besoin de s'aguerrir. Il a encore besoin d'avoir un banc qui est pour moi supérieur à celui de Bologne. Il fait de très belles choses. Il a de belles idées. Maintenant, je pense qu'il doit encore confirmer avant de prendre une équipe comme le Paris Saint-Germain. Il y avait une idée de pourquoi pas aller à l'Inter qu'il connaît très bien. Là, maintenant, il y a le Barça. Donc, pourquoi pas. Mais pour moi, dans une équipe qui aujourd'hui voudrait gagner une Ligue des Champions à terme, je pense que c'est peut-être encore trop tôt pour lui. Et j'attends de le voir sur un banc qui est au-dessus de Bologne. Mais dans tous les cas, sa déclaration, elle fait plaisir. Et tu te dis que si jamais un jour tu veux Thiago Motta, tu pourras avoir Thiago Motta parce que c'est quelqu'un qui veut revenir. C'est quelqu'un qui veut entraîner le PSG, qui veut faire gagner le PSG. Donc, ça se fera quand ça se fera. C'est un petit peu comme Zidane avec l'équipe de France. ça se fera quand il n'y aura plus Didier Deschamps, mais ça se fera à terme, on le sait. Bah, Thiago Motta au PSG, ça se fera aussi à terme, mais pour l'instant, on est avec Luis Enrique.
Bon, j'ai plein de comptes à régler dans les commentaires. Déjà, il y a un truc que j'ai oublié, et je suis totalement d'accord avec toi, Kevin. Est-ce que le style de jeu de Luis Enrique peut correspondre au style de Ligue 1? Parce que je veux bien que tu veuilles faire possession, un truc comme ça, quand tu as une défense de 5-6 mecs, même si tu auras beau écarter le jeu jusqu'à demain matin, au final, il y a des lignes, des blocs qui sont resserrés comme ça. Tu as au moins 10 joueurs qui sont regroupés devant leur gardien. Tu auras beau y tirer autant que tu veux, je ne suis pas sûr que ça soit le style de jeu qui fasse mal à la Ligue 1. La Ligue 1 en transition, tu verras que la plupart des buts viennent de transition en Ligue 1. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Ouais, moi, je suis d'accord, mais c'est pour ça aussi que l'évolution que tu as eue, tu parlais de Guardiola, notamment, pas forcément son City, mais son Munich, qui est une équipe de pure transition, c'est pas forcément non lié possession et transition. Le coach qui a eu le plus la moyenne de possession sous QSI au PSG, vous savez qui c'est? Alors, les gens pensent que c'est Blanc par rapport au jeu qu'il pratiquait. Non, c'était Unai Emery, le coach qui a eu le plus la possession à Paris. Pourtant, on a le souvenir d'une équipe justement de transition qui passait par les ailes très vite. Donc, ce n'est pas incompatible. Mais ça, c'est Enrique qui, s'il s'obstène que dans la possession, sans justement vouloir de transition, même si par défaut, on est obligé de le faire puisque tous nos buts viennent de là, mais ça n'a pas l'air de le faire plaisir à chaque fois qu'on voit la tête qui tire à Strasbourg. Voilà, mais c'est pas comme là je rejoins Nix dans le fait de se réinventer. Et c'est pareil, j'ai vu un com, Nix, tu vas pouvoir rebondir dessus, le com qui te dit c'est faux, regarde les Leverkusen.
Ouais, c'était mon deuxième argument parce que Adric Signo, excuse-moi, la deuxième équipe que je regarde le plus après le Paris Saint-Germain, c'est Arsenal. Donc Arsenal n'a rien à faire dans cette liste déjà. Parce que premièrement, si tu regardes les transitions qu'ils font avec Saka sur les côtés et Martinelli à gauche, c'est pas de la possession ça. Ça c'est tu récupères le ballon haut et tu joues vite. Luis Enrique, ce qu'il fait, c'est qu'on récupère le ballon et on fait des passes. C'est pas du tout la même chose. Arsenal, quand il récupère le ballon, c'est projection directe. C'est projection sur les ailes. Nous, on fait pas ça. Nous,
Leverkusen aussi, hein, avec Grimaldo et Frimpong sur les ailes. C'est la même chose.
Je pense que Xavi Alonso aussi. Je regarde pas assez Leverkusen pour être définitif là-dessus. Mais tous les matchs que j'ai vus là-dessus, ça se projette de fou. Ça récupère pas le ballon pour faire une séquence de possession de 3 minutes. Ça n'existe pas. C'est récupérer le ballon. En fait, ils ont la possession parce qu'ils ont tout le temps le ballon. Ça veut dire une fois qu'ils le perdent, ils le récupèrent. Ça, c'est le truc qui est commun en deux. Mais après, ils font pas des séquences de possession de 5 minutes. C'est nous, on fait ça. C'est pas comparable.
Après, d'ailleurs, le Leverkusen, Xabi Alonso va partir, Leverkusen pourrait être un banc intéressant à prendre pour Thiago Motta. Ça pourrait être une suite logique. Et j'ai vu un commentaire tout à l'heure de ne pas brûler les étapes. Par exemple, Xavi au Barça. Ben moi, je suis d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que Thiago Motta gère très bien pour l'instant son parcours, qui monte vraiment petit à petit. Et je trouve que pour lui, ce serait beaucoup mieux de prendre un banc comme Leverkusen ou une équipe un petit peu plus haute, peut-être, que d'aller directement dans un top club qui a des exigences et qui ne va pas te laisser travailler. Parce que là, pour l'instant, il travaille dans des environnements où on lui donne les clés, où il a du temps, où il peut faire ce qu'il veut avec les joueurs. Mais le jour où il va se retrouver dans un environnement comme le Barça ou beaucoup plus néfaste, où on te donne pas le temps et le crédit que tu as besoin, bah, ce sera complètement différent.
Je suis pas sûr que... Je pense que Leverkusen, c'est un cadeau empoisonné. Hein. S'ils arrivent à être champions cette année, alors qu'ils ne gagnent jamais un titre, etc., Alonso qui part, tu peux faire que pire l'année d'après.
Oui, mais tu peux toujours assurer une place en Ligue des Champions, te faire un 2 ou 3e podium en Bundesliga avec une équipe qui joue toujours au football. C'est quand même plus intéressant que d'évoluer à Bologne, tu vois.
Ça, oui.
Après, je tiens à dire aussi que... Oui, vous avez raison dans les commentaires. C'est vrai qu'on ne peut pas très bien jouer en projection si on n'a pas des bonnes rampes de lancement, chose qu'on n'a pas. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a quand même le problème où des fois, quand on se projette et tu vois Luis Enrique arrêter la projection, il crie sur le joueur pour lui dire d'arrêter. Et c'est ça qui me pose problème. C'est ça qui me pose problème. Il dit calme, genre entre guillemets, ça y est, posez le ballon et on va refaire la possession, on va les refatiguer. Ça, c'est juste mon problème avec ça. Mais bon, on a déjà assez parlé de ça. Il reste quelques minutes dans le live. Il y a d'autres sujets à aborder. Il y a notamment le nouveau stade où je vais énerver Basto parce que c'est un puriste. Donc, j'ai une question à poser là-dessus et on va énerver Monsieur Basto. Le nouveau stade, je vois plein de gens dire que le Paris Saint-Germain, c'est Paris. Si on quitte Paris, c'est compliqué. Ma question est la suivante. Est-ce que le PSG n'a pas toujours été un club d'Île-de-France? Parce que de l'histoire, on sait très bien que le Paris Saint-Germain est la fusion d'un club de Paris et d'un club de Saint-Germain. Donc pour moi, le Paris Saint-Germain a toujours été parisien et au moins yvelinois, ne serait-ce que pour ne pas dire Île-de-France, a toujours été moitié Yvelines, moitié Paris. Donc, est-ce que ce serait si problématique que ça? Parce que là, notamment, je vais vous donner une déclaration de Valérie Pécresse, qui, contrairement à Anne Hidalgo, est très pour que le Paris Saint-Germain ait un stade. Elle a dit, par exemple, on ne peut pas laisser le PSG dans l'impasse. Je souhaite ouvrir toutes les possibilités pour un stade dans la région. Il faut garantir au PSG un avenir rayonnant et durable en Île-de-France. On va passer le fait que peut-être c'est une occasion de tirer sur Hidalgo parce qu'elle aime bien se tirer dessus. On va quand même dire que en dehors du Paris Saint-Germain, parce que je vois plein de gens qui disent que c'est la faute du club, je tiens à dire que la ville de Paris a perdu Roland Garros aussi et qu'ils ont une politique sportive qui est catastrophique. Donc, est-ce que ce serait pas mieux de plus avoir affaire à ces gens-là parce qu'ils n'en ont rien à faire du sport, clairement, parce qu'ils sont en train de tuer tout le sport qui est à Paris, ça n'existera plus, le sport il va être
pour les JO.
Ouais, tout pour les JO, après les JO, voilà. Donc, en fait, est-ce qu'on ne se serait pas mieux de, entre guillemets, s'allier à l'Île-de-France qui a plus une vision sportive, qui a Roland-Garros sera en Île-de-France, maintenant ce ne sera plus à Paris. Le Parc des Princes peut être hors Paris. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et vu que c'est Basto le puriste, on le laisse commencer.
Non.
J'ai réussi à te couper la parole.
Ah. Non, de quoi?
J'ai réussi à te faire souffler, de ne pas avoir quelque chose à dire direct. Tu as dû réfléchir.
Ouais, non, parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête là-dessus. Déjà, est-ce que j'ai vu qu'il y en a qui disaient la racine du PSG, c'est la banlieue, etc. Le PSG, même s'il y a Saint-Germain dans le nom, quand il est créé, c'est Pierre Belmar, c'est Mireille Mathieu, c'est ensuite qui appelle à la radio à la construction du club, puis c'est les fameuses chemises roses, c'est-à-dire Belmondo, Etcher et Enrico Macias, qui sont quoi? Qui sont les stars du tout Paris, du plein Paris, du Paris Strass et Payet. Donc, de base, Paris est créé justement par ce côté Paris-Ville-Lumière qui vient derrière, notamment Borrelli qui va très bien l'incarner en tant que président. Donc non, la base et les racines du Paris Saint-Germain, c'est Paris et c'est le Paris des artistes. C'est le petit Paris des artistes où tout le monde se croisait. Tu vois, le Paris que décrit très bien Jean Cocteau dans ses livres. Donc non, les racines de Paris, c'est la ville lumière. Donc à partir de là, un club évolue, je suis d'accord. Si le PSG ne peut pas construire un stade dans Paris même, ce qui risque d'être compliqué, puisqu'il n'y a pas forcément la place, et puis il va y avoir des blocages, pas que d'Hidalgo, hein, mais des assos, des élus locaux, des élus régionaux, etc. Même en Ile-de-France, ça va être compliqué. D'ailleurs, ceux qui pensent qu'on aura un stade qui arrive dans 4-5 ans, je pense qu'ils se fourvoient pas mal et je pense qu'on n'en aura pas un avant une dizaine d'années. Maintenant, il faut trouver le bon lieu. Ce qu'on parlait le plus, la Montigny-Bretonneux, c'est ça? Moi, je vérifie. Ouais. C'est quand même ultra mal desservi, quoi.
Ouais.
C'est à perpète. C'est comme le Lyon, ce qu'ils ont fait avec Décines, c'est à perpète. Et pour ça, le stade à Lyon, il n'est pas plein. Il est au-delà des résultats, même quand il a été construit. Parce que c'est ultra mal desservi, même si tu avais le tram qui allait. Mais par rapport à Gerland, c'était vachement éloigné. Donc attention quand même à être cohérent et stratégique, que ce soit dans la capacité maximum du stade, ne pas voir trop grand, et quand même trouver une bonne solution et pas juste quitter le parc pour le quitter.
Ouais, mais dans les solutions proposées, il y avait notamment la Défense Arena. Et ça, pour moi, c'est typique l'endroit où tu n'as pas affaire à la mairie de Paris. Et pour moi, la Défense, ça a toujours été Paris. Vous avez beau me dire, c'est dans le 92, plutôt tout ça, etc. Moi, pour moi, la Défense, c'est Paris. Donc, en fait, tu as le métro qui va là-bas, tu as la RER. Je ne sais pas exactement, je connais pas exactement le dossier de ce qui est possible ou pas. Mais pour moi, c'est une solution qui était plutôt pas mal. Le Stade de France, ils l'ont exclu parce qu'ils n'aimaient pas trop la zone. Ça, je peux le comprendre. Après, même si moi, ça m'arrangeait personnellement. Mais je pense qu'en Ile-de-France, il y a des choses à faire. J'ai même vu, il y a un endroit, dans les commentaires, ils nous disaient qu'il y a à Gonesse, là où ils voulaient faire le nouveau Roland-Garros. C'est une zone qui est bien desservie, pas loin de l'aéroport, etc. Je pense qu'en Ile-de-France, il y a moyen de trouver des endroits qui sont bien desservis et qui ne sont pas forcément à Paris. Eric Oba, je te donne la parole.
Ah, j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Non, mais dans tous les cas, c'est clair que ça va être un des enjeux, si tu veux construire ton stade, de trouver un endroit qui sera bien desservi forcément, qui peut accueillir plus qu'un stade, parce que ce qu'ils veulent construire, ce n'est pas seulement un stade moderne, c'est aussi tout un écosystème autour, donc il va te falloir de la place. Après, quand on regarde Disney, Disneyland, Parc Astérix, tout ça, c'est beaucoup plus loin, et pour autant, il y a toujours autant de fréquentation. Donc, faire quelque chose en Île-de-France, c'est largement possible. On n'est pas obligé d'être à Paris même ou d'être vraiment aux alentours de Paris. Mais dans tous les cas, ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien, surtout qu'ils veulent, ils vont vouloir un stade quand même avec beaucoup de place. Donc, si tu veux accueillir beaucoup de monde, il faut quand même penser à ce que ce soit bien desservi. Et je pense que Valérie Pécresse aussi a tout intérêt à faire en sorte que ce soit un endroit qui soit bien desservi aussi. Donc voilà, ils ont tous des intérêts communs. Maintenant, est-ce qu'on parle de la décision ou pas ? Est-ce qu'on parle de... Parce que c'est clair que la décision pour la mairie de Paris, elle est catastrophique. Mais maintenant, pour nous, c'est une suite logique. Beaucoup de clubs l'ont fait.
J'ai lu que le PSG, même en quittant le parc, songerait à garder le bail avec la mairie de Paris pour organiser, en tant que QSI, des concerts pour mettre les matchs des féminines, etc. Et sachant que le bail est encore lieu jusqu'en 2044. Donc la mairie aurait quand même le temps de se retourner d'ici 2044 si le PSG, même en quittant le parc, garde ce bail.
Ok. Bon, ça fait une heure qu'on est ensemble. On va juste aborder un dernier sujet qui est ridicule. Mais
Attends.
Oui.
Attends, vas-y. Parce que j'ai oublié une partie. Paris, c'est Paris. Non. Premier stade de Paris, même si, comme il a dit, les chemises roses, etc. Premier stade de Paris, Georges Lefebvre. C'est dans le 78. Mmh. Paris, Saint-Germain, c'est Saint-Germain. Le camp d'entraînement, le camp des loges, c'était Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, c'est Poissy. Et toute notre jeunesse, Mbappé, c'est Bondy, etc. Il y a énormément de joueurs qui viennent d'Île-de-France. Il y a un vivier en Île-de-France. Donc pour moi, Paris, ce n'est pas seulement Paris. Ça a toujours été l'Île-de-France, tout simplement.
Oui, c'est vrai que dans Paris Saint-Germain, Paris n'est qu'un mot sur trois. Donc bon.
L'Île-de-France, c'est le Red Star, arrêtez.
Non, mais toi, t'as un problème de différence où t'arrives pas à différencier les banlieues et l'Île-de-France. Les Yvelines, c'est pas le délire à 93 du Red Star.
Non, mais je sais, je rigole.
L'Île-de-France de 78, les Yvelines, c'est très loin de chez moi, mais quand même. Tu vois, ça reste un peu Paris, quoi, tu vois.
Ouais, mais après, dans ce qu'il parle de Georges Lefebvre et tout, c'est très compliqué la fusion du PSG au début, parce qu'on dit que la création officielle, c'est 70, mais après, il y a une cession avec le Paris FC, les Saint-Germain qui va rejouer à Lefebvre, puis finalement Paris qui repart en Détroit, et là, au Parc des Princes. En fait, c'est un beau bordel, on dit création
ça 72. Ça démarre vraiment en 72, en fait.
Voilà, le PSG où ça démarre, c'est, c'est en division 3, puis l'année d'après en division 2, avec Georges Urcaef qui est capitaine, Dogliani, la victoire contre Valenciennes, etc. Et ça, c'est au parc.
Ouais, désolé Arnaud, franchement, je connais pas du tout l'histoire du Red Star. Je ne vais pas m'inventer une vie. Peut-être que c'était un club de Paris, effectivement.
C'est Saint-Ouen, le Red Star.
Mais je connais que Paris. Bon, dernière question, les gars. Le carton bleu, c'est quoi cette merde, Recoba?
Ben, je pense que Jürgen Klopp a résumé ça comme je l'ai retweeté sur Twitter. Est-ce que dans le football, ces dernières années, ils ont pris de bonnes décisions à la FIFA ou à l'UEFA? Non, on n'en a pas le souvenir d'une bonne. Donc, à un moment donné, ce n'est pas étonnant, mais évidemment que c'est une mauvaise idée. Même la couleur du carton, elle est ridicule. Donc, non, mais je ne valide absolument pas.
Resto.
J'ai juste envie de voir Verratti en combien de temps il tient avec une carte bleue, sachant que c'est pour faute pression à l'arbitre. À mon avis, il prend un carton bleu pendant 10 minutes, il revient en 1 minute, il prend le rouge. Non, mais c'est ridicule. Et puis, ça va créer d'autres injustices. Pourquoi lui, il a pris bleu alors qu'il a touché l'arbitre par le bras, alors que l'autre non? Enfin, tu sais, rajouter des problèmes aux problèmes. Et malheureusement, ce n'est pas que dans le foot. Ce que je lisais aujourd'hui, un directeur sportif d'une équipe de cyclistes qui voulait des remplaçants au Tour de France. Genre, s'il y a un coureur qui se blesse au bout de 7 jours, il peut être remplacé en prenant le temps de celui d'avant. Alors que le Tour de France, justement, c'est l'effort sur 21 jours. C'est complètement con. Un mec, il arrive pour la dernière semaine, il est plus frais que tout le monde. Ils veulent tous des idées de plus en plus débiles dans tous les sports. Donc, c'est pas lié qu'au foot.
Laisser le foot comme idée, comme on l'a connu. Peut-être, c'est peut-être égoïste de notre part parce que bon, on veut ça, entre guillemets, s'attribuer, s'approprier le foot. Mais bon, on a grandi avec un foot à 90 minutes, avec demi-temps à 45. Oui. Des cartons jaunes, des cartons rouges, trois changements, peut-être cinq changements, c'est bien parce que maintenant, il y a plus de matchs. Ça, c'est un truc qui était nécessaire. Sinon, il faut arrêter les bêtises.
Non, mais il est, c'est clair qu'en plus, c'est se rajouter des problèmes parce qu'au-delà de la véhémence envers l'arbitre, tu as aussi le fait d'annihiler une action qui pourrait être dangereuse. Alors, comment tu vas juger que ça pourrait être plus ou moins dangereux qu'une autre ? C'est la même chose. Voilà, mais non, mais c'est ça. Et au final, c'est se rajouter des problèmes. Mais je trouve que tu parlais pour le cyclisme, c'est l'image du sport, mais c'est l'image de la société. Aujourd'hui, globalement, dans la société, j'ai l'impression qu'on s'ennuie tellement qu'on se rajoute des problèmes. Alors avant, on n'avait pas de soucis avec ça, on ne se posait pas ces questions-là, parce que soit il y avait la guerre, soit il fallait travailler, soit il fallait se nourrir, donc il n'y avait pas le choix, tu vois. Mais aujourd'hui, tout va tellement bien, entre guillemets, hein, évidemment, mais comparé au passé. Du coup, aujourd'hui, on se pose plein de problèmes, on se rajoute des problèmes, on va faire comme ça, là, peut-être on va faire ça. Et au final, les idées sont plus farfelues que les autres. Et évidemment que ça n'est pas rendre service au football et au cyclisme dans le cas de l'exemple de Basto.
Ok, le plus rapide qui pose sa question aura une réponse. Et après, les gars, on va s'en aller. Donc, celui qui dégaine, c'est Lucky Luke. On va voir lequel qui dégaine une question le plus rapidement possible. On va mettre un petit fond sonore en attendant. Est-ce qu'il y a le stade?
T'es coupé, Nyx.
Mon son, il est coupé, t'as dit?
Ouais, quand tu parlais tout à l'heure, c'était coupé, ouais.
Ah, on vous encourageait à mettre une question. C'est qui est le plus rapide? Arnaud qui nous dit, verra-t-on Nyx sans lunettes le jour on aura 1 million d'abonnés peut-être. Allez, comme ça c'est répondu rapidement. Nyx, son thème, on veut que vous invitiez Walid à Cherchour. J'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, tous ceux qui regardent d'autres youtubeurs, dites-leur qu'ils sont invités. Genre, je sais pas si vous regardez les migrés parisiens et tout ça, dites-leur de venir chez Paris Central parce que ce sera plus simple comme ça. Pas de question, Paris c'est que bling bling pour vous. Bah allez, on va terminer sur celle-là. Pour moi, non. Je sais pas, moi je suis rentré à l'époque, c'était pas vraiment bling bling, c'était juste avant Ronaldinho, il y avait Anelka et Laurent Robert. C'était pas l'époque c'était l'époque Canal+, il y avait pas. C'était pas bling bling à l'époque, c'était le foot qu'on aime, un peu Paris-Ville-Lumière quand même, mais c'était pas. S'il y avait pas encore eu Ronaldinho, c'est devenu fou. C'était après les années 90, là où on a fait les demi-finales de Coupe d'Europe. La tension a été un peu redescendue. On n'avait pas des scores, des classements exceptionnels. Mais c'était une équipe que tu kiffais, en fait. Moi, je kiffais les joueurs. Par exemple, vous pourrez me dire qui vous voulez. L'un de mes joueurs préférés au Paris Saint-Germain, c'était Laurent Robert. Et jusqu'à maintenant, je veux dire que probablement dans mon top 15, mais c'est un côté affectif, c'est pas un côté peut-être niveau, mais top 15, Laurent Robert tous les jours.
Mais il y en a beaucoup de ta génération qui ont Laurent Robert comme joueur favori. Hein.
C'était trop un crack, ce mec-là.
Mais pour moi, c'est les deux, en fait. Mais comme Paris Saint-Germain, et comme on parlait tout à l'heure, Paris Saint-Germain, c'est Paris et sa banlieue. Et il y a le côté Paris, Strass et Payet. Il y a toujours eu des grands joueurs. Il y a toujours eu des magiciens. Dans n'importe quelle année, tu as eu des magiciens, tu as eu des grands joueurs, des grands numéros 10. Mais tu as aussi ton vivier parisien de la banlieue parisienne, avec les Anelka, les Luxin, les Dalmat aussi que tu as voulu faire venir à un certain moment. Aujourd'hui, avec les Colomoigny, les Bappé, oui, ça n'a pas marché, c'est clair. Mais voilà, aujourd'hui, les Colomoigny, les Bappé, etc. Et c'est pour moi le Paris Saint-Germain, c'est ça. C'est la fusion des deux, des Strass et Payet de Paris, des magiciens et aussi de ta banlieue et des guerriers qui mouillent le maillot pour ce club.
Paris, ce n'est pas que le bling-bling, on est d'accord. Il y a des joueurs qui ne représentent pas le bling-bling et qui représentent la grinta. Je pense à des joueurs comme Enzo et Sorin à l'époque, mais qui rien à voir avec la banlieue ou quoi que ce soit. Là, je parle. C'est juste, c'est pas des joueurs qui sont ultra classieux à regarder, mais qu'on aimait aussi par le côté grinta, mais représentaient en même temps une certaine classe. Et Paris, c'est important pour moi, c'est le club du beau, entre guillemets. C'est quand même ça avant tout. Et tu dois être représentant d'une certaine classe. Et si tu regardes les légendes qui seront citées, ce sera Susic, les Daleb, les Paoletta, tous les joueurs qui vont être cités parmi les grandes légendes, ça va être avant tout des joueurs classieux. que ce soit par le Ouraï, effectivement, pas forcément par leur jeu sur le terrain, mais par tout ce qu'ils représentent en dehors, comment ils se portent, comment ils parlent, etc. Pour moi, c'est avant tout ça, Paris. Le problème, c'est que oui, Paris, c'est aussi la banlieue, c'est aussi le combat, etc. Le problème, c'est cette dualité où on peut se perdre. Il y en a des gens qui vont dire, c'est que banlieue, il faut ça, c'est que bah ça. Ouais, c'est... Et quand tu as choisi que un projet, tu as essayé de tomber dedans comme, comme Canal+ l'avait fait avec son PSG projet banlieue, tu as essayé de tomber dedans dans l'inverse avec Neymar, Messi, Mbappé. Quand tu tombes que dans une case, que tu mets dans une case, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Donc, ceux qui veulent leur pari banlieue, même si c'est, pour le moment, c'est une fable, ça n'existe pas. Tu as juste Colomouani qui est là, mais ceux qui veulent les Fofana, les machins pour faire une équipe que Paris, mais ça sera une catastrophe. Ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas marcher.
Mmh, totalement d'accord avec ça.
Punaise, t'as parlé de légende du Paris Saint-Germain et ça m'a donné une idée de sujet, mais on va pas le faire tout de suite parce que sinon on va jamais finir. On va essayer de l'aborder mardi, tiens, je vais le noter pour mardi. Donc n'arrêtez pas le live de mardi, on va parler de légende. Sur ce, les amis, est-ce que vous avez fait 100 likes? 98 likes, donc on va partir. J'espère que quand on va cliquer sur terminer le stream, quand je vais aller réactualiser, il y aura 100 likes. Il y a juste deux personnes. C'est un objectif nul, hein, parce que franchement, je ne vous cache pas que la plupart des autres youtubeurs qui font des trucs PSG, ils manquent à 400-500 likes. Moi, je vous demande 100, donc c'est pas ouf. Et sur ce, bon match ce soir, parce qu'il y a quand même un match à jouer avant la Real Sociedad, même si on est tous tournés vers mercredi, limite on s'en fout un petit peu.
Mais on n'a pas fait de
promo, tiens. Ouais, mais c'était volontaire, parce que je voulais que la vidéo elle tienne plusieurs jours, et je me suis dit, si on parle de Lille, après, vas-y, c'est mort, mais vas-y, c'est sur la fin, de toute façon, ils seront déjà arrivés jusque-là, on s'en fout.
Alors, il y a les deux équipes de Bastos ce soir.
Ouais. Moi, tu regardes beaucoup Lille, à quoi s'attendre ce soir?
Ah ouais, moi je regarde Fonseca depuis dès que je peux le regarder. C'est mon coach préféré en Ligue 1, donc et l'équipe que je préfère regarder. En termes de plaisir, je prends plus de plaisir devant Lille que devant le PSG en termes de plaisir jeu. Après, je regarde plus de matchs de Paris que de Lille quand même. Mais voilà, mais j'ai j'ai limite, si on perd ce soir, ça ne me dérange pas, tu vois, parce que j'ai envie que Lille soit sur le podium.
Quel connard.
Bah si, il faut Lille, ils méritent le Fantasy Football. Ils doivent être en Ligue des Champions à la place des Nice et des Brest. Là, on veut Lille en Ligue des Champions.
Ah oui, je veux bien qu'ils soient en LDC, mais ça ne doit pas passer par une victoire au parc. Réco, prono.
Prono, match nul, je dirais. C'est à Lille, hein?
C'est au parc.
Ah, c'est au parc, ok. Ouais. Je dirais match nul hein, partout.
Moi, je dis 2-1 Paris.
Pour ne pas changer, 3-1 Paris, ça passera un jour, on ne sait pas. pour terminer, on va vous laisser, je voulais juste envoyer un big up à Moussa qui a très bien résumé le sujet qu'on vient d'aborder. Paris et Multipol, c'est Sevran et c'est Deschamps, c'est Ginola et Matuidi, c'est ça Paris. Et je trouve que c'est très beau. Donc bonne journée à vous, bon samedi. Salut à toi Moussa le poète. Ciao.
Ciao tout le monde.